Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jojo, voilà, donc avec nous, Jojo, l'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Donc « Regarde ailleurs », c'est vraiment cette envie, c'est ça, d'élargir sa vision sur le monde, mais aussi sa vision sur soi, grâce à des expériences de vie, à des parcours différents. Je rencontre des écrivains, des réalisateurs, des photographes. Toi, hier, tu as animé une cérémonie cacao, donc on en parlera dans cette émission, parce que de plus en plus, je vois sur les programmes de festivals où des cérémonies cacao sont en train de se développer un peu partout, notamment en France. Donc voilà, on essaiera de comprendre pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire, une cérémonie cacao. Mais avant de parler de ça, et avant de partir en Amérique latine, parce que j'imagine que c'est là-bas que tu as découvert cette plante médecine, je vais m'intéresser un peu à toi, à ton itinéraire de vie, à ton parcours. Donc qu'est-ce qui a fait que, Jojo, un jour tu te dises, tiens, la France, peut-être que c'est le moment d'aller voir ce qui se passe au-delà des frontières. Raconte-nous.
Waouh, vaste question, ça a commencé il y a longtemps. Tout d'abord, merci, c'est vraiment un honneur de pouvoir répondre à tes questions. Et c'est, j'adore ton format, ton idée, la vision, c'est magnifique. Donc merci. Moi, je suis parti vivre au Québec, parti étudier là-bas. Et ça m'a beaucoup impacté. J'étais à la fois très touché, une ouverture sur le monde, etc. Et à la fois, c'était la grande ville, la grosse ville. J'avais vraiment l'impression d'être au milieu d'une grosse machine. Et j'étais très militant à l'époque, j'ai vécu le printemps érable. Et donc il y a eu toute une énorme machine à laver de transformation qui s'est faite là. Et à un moment, c'était clair, j'ai eu une vision du cerf dans une cérémonie avec mon copain Inou, cérémonie de tambour. Et je suis parti vers le sud, et l'idée c'était d'y aller à fond, quoi, d'y aller, et je me suis retrouvé.
Donc le sud de l'Amérique, on est bien d'accord, là on parle du Québec, hein, donc le sud.
Québec. Et là, donc je suis parti vers les États-Unis, et j'ai atterri au Mexique, et de fil en aiguille, au travers d'un rainbow, j'ai rencontré un frérot qui m'a amené dans une caravane à cheval, où on voyageait à cheval, et on faisait du cirque, et on s'est retrouvé dans les régions zapatistes. Les Zapatistes, si vous ne connaissez pas, allez regarder, c'est incroyable comme histoire. C'est la guérilla qui a fonctionné, donc il y a des endroits où il y a des villages autonomes, souverains, ils ont leurs terres, ils vivent en autonomie dans la forêt lacandone, et c'est extraordinaire. Beaucoup de gens vont dire attention, c'est dangereux, tatata. C'est vrai qu'il y a des ejidos, donc des territoires qui sont un peu dangereux, mais la plupart, c'est un petit paradis sur terre, et c'est une expérience humaine fascinante d'autonomie et de démocratie directe. Donc de fil en aiguille, nous on voyage à cheval, on est un cirque, et c'est drôle parce que de fil en aiguille nous on était déjà un peu fascinés par le cacao de différentes manières, il y avait des cuisiniers, tout ça, et puis on est dans le monde maya, on arrive dans le monde maya, donc forcément cacao.
Tu vas trop vite, je vais te ralentir. T'as dit plusieurs choses qu'on va définir, donc tu parlais déjà du printemps érable, c'est ça?
Oui, printemps érable, plus gros mouvement social de l'histoire du Québec en 2012. C'était extraordinaire, ça a été d'abord les étudiants qui étaient dans les rues, et puis après l'ensemble de la population contre toute une façon de faire la politique, de l'austérité, tout ça. Et puis la corruption au Québec, qui à l'époque il y avait la commission Charbonneau, donc une commission de juges non corrompus qui contre la corruption, contre le lavado de dinero, contre le lavement d'argent. Et c'était une période vraiment, je pense, assez douloureuse pour une bonne part de la jeunesse du Québec, parce qu'il y avait des choses extrêmement violentes qui se passaient, comme les sables bitumineux, le plan Nord, la vente de projets d'espace pour des mines dans le Grand Nord québécois, l'île d'Anticosti aussi, la vente de l'île, enfin le don presque de l'île d'Anticosti, qui est une île paradisiaque dans l'embouchure du Saint-Laurent, un espace extrêmement riche et important en biodiversité, qui est donné comme ça aux minières et aux fous. Donc il y avait tout ça qui se passait, et en plus des mafias très puissantes dans les villes qui prennent des contrôles politiques. Et donc voilà, toute une population qui se lève, et le mouvement des carrés rouges, tu vois, c'était stop, quoi, c'était stop, et on revient à on revient à pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on fait. Et ça a été beaucoup, comment dire, c'est un mouvement qui a été perçu comme une réaction à une hausse des frais de scolarité au Québec. C'était un débat quand même très important aussi, mais en fait c'était vraiment un mouvement d'ensemble et de profond. Et donc c'était fascinant, c'était vraiment... Et puis moi j'arrivais pour étudier l'analyse critique, donc la philopolitique. Donc pour le coup j'étais très profond. Donc on avait le même tarif que les Québécois pour étudier dans l'université publique au Québec, c'est-à-dire pas grand-chose. L'université à la Québécoise, c'est une très belle expérience. Ça dépend des universités, mais de mon point de vue à l'époque, il y avait un avant-gardisme sur la méthode pédagogique. C'est-à-dire que je suis allé dans un cursus où dès la deuxième année, je choisissais presque tous mes cours, vraiment. Et à chaque cours, on avait... Puis nous, en plus, on était vraiment le groupe classe qui était à fond avec ça. À chaque début de cours, on voyait le plan de cours, on étudiait le plan de cours en tant que groupe classe. Et après, on avait des sessions d'assemblée, donc de débat, à savoir comment on allait aborder ce plan de cours. Et après, on revenait au professeur pour lui proposer des modifications ou pas, si on acceptait le plan de cours ou pas. Et ça, c'était génial. C'était vraiment, du coup, il y avait vraiment un rapport de respect mutuel avec les profs. Et c'était... Donc voilà, pour moi, c'était une époque fascinante et qui m'avait bouleversé. J'ai découvert en plus en profondeur le féminisme, la philosophie anarchiste... Je me suis régalé en termes de compréhension.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jojo, donc tu parles aussi de cette vision que tu as eue de te dire « bon maintenant on va aller plus vers le sud » et tu rencontres un rainbow, un frère rainbow. Ça aussi c'est quelque chose qui serait intéressant de définir, qu'est-ce que c'est que les rainbows.
Et ouais, justement avec toute cette ville, toute cette profusion d'idées à l'université, c'était génial, mais ça a été traumatique aussi au bout d'un moment parce que j'étais au cœur de la ville. La ville c'est devenu très difficile, j'étais dans le mal, quoi. Ça fonctionnait pas pour moi et j'étais dans l'excès à plein de niveaux, du coup, pour compenser ce besoin de nature, ce besoin de mouvement, ce besoin de connexion, en fait. Et j'étais de plus en plus affecté par tout ce qu'on peut trouver dans les villes, de stimulation et d'interférence avec soi et son harmonie. Je pars en stop et je finis par faire du bateau stop, voyage extraordinaire, tout ça. Et j'avais déjà entendu parler du rainbow. Le rainbow, c'est une des plus grandes familles libres et décentralisées de voyageurs. Pour moi, c'est ça. Beaucoup de gens du rainbow diront « non, mais c'est pas ça ». Mais je pense que chacun le perçoit. Mais les rainbows, c'est des rassemblements libres, autogérés, voilà, exactement, où il n'y a pas d'argent, pas d'alcool, pas de viande, pas de violence et pas d'autoritarisme. Ça émerge dans plein de formes. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a des rassemblements, mais il y a des communautés rainbow aussi, qui vivent selon ces principes. Il y a des caravanes. Et donc la caravane des chevaux dont je parlais un petit peu plus tôt, c'est ça, c'est une caravane rainbow. Donc c'est un peu les principes du rainbow aussi. Donc le cercle autour du feu, les cercles de parole, vraiment l'autogestion, pas d'argent, ou du moins une autre gestion de l'argent. Que celle de l'individuel échange, tu vois, c'était plus commun, une vision commune, et puis le végétarianisme, et puis partager l'amour et la paix, voilà. Et la connexion à la nature, c'est ça le rainbow. Et moi je suis arrivé le soir de la pleine lune, après un long voyage. Souvent c'est dans des endroits paumés les rainbows, et là c'était au Québec, donc c'était paumé de chez paumé, en Gaspésie, des heures et des heures de voyage perdu. J'arrive de nuit après des 3 jours de stop. Et là, j'arrive sur un feu entouré d'humains qui dansent, une bonne partie d'entre eux nus. Il y avait peut-être autour de entre 600, 700, 800 personnes. Énorme percussion de l'esprit, énorme musique, mais que acoustique. Et moi, j'avais jamais connu ça encore. Tu vois, j'en rêvais, j'avais un peu vu. Je vivais dans les arts et tout, dans la ville déjà. Énormément de musique, tout ça. Mais là, c'était la matière. Et tout de suite, je me suis mis nu, je me suis mis dans la terre, tu vois. Et puis, il y avait un lac à côté. Et là, je me baigne. Et le feu... Et la danse, et il y a eu une sorte de mise à nu immédiate qui a été le départ d'un grand voyage qui m'a amené au cacao. Voilà, moi c'était ça ma porte d'entrée, c'était ce rainbow-là.
C'était le rainbow, une sorte de reconnexion finalement à soi et à la nature. Hein. On parlait avant de nos sociétés de plus en plus déconnectées. Hein, on souffre un peu d'une famine de l'essentiel. Et le rainbow permet de se reconnecter à soi et puis aussi à ses frères et sœurs. Parce que finalement, c'est peut-être ça le message, c'est qu'on partage tous la même planète. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver à vivre ensemble?
Oui, et aux outils qui permettent ça, qui ne sont pas forcément évidents. L'autogestion, c'est un art compliqué, qui peut être très simple. Voilà, mais c'est à expérimenter, je le recommande à tout un chacun.
Ça touche l'humain finalement, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est d'arriver à vivre ensemble, parce qu'on est tellement devenu individuel, hein, cette notion du clan, du vivre ensemble qu'on retrouve dans certaines communautés encore, hein, dans certains pays où les gens sont beaucoup plus dans une vie communautaire, où nous on a tout individualisé, et faire ce step back, cette marche arrière, c'est pas évident.
Oui, absolument, et là tu me dis ça et j'ai tout de suite un flash, c'est un choc que j'ai très souvent dans le monde maya. Et en Amérique centrale, dans les villages, dans les maisons, même dans les villes, il n'y a pas cet espace individuel qu'on a. Les gens, chez eux, ils vivent tous ensemble. Vraiment. Tu as des petites maisons avec 12 personnes dedans. Et dans les villages, ça va à un point qu'on a du mal à concevoir et que moi, j'étais à chaque fois éberlué par cette réalité. Et je me faisais quand même inviter. Je me faisais inviter chez des gens comme ça. Il me disait ouais et tout, je voyageais comme ça, je demandais est-ce que machin. Il me disait oui, tu peux venir chez nous, pas de problème, tu mets ton hamac. Et je me rends compte en arrivant qu'il y a une pièce dans la maison et qu'on est 15, sans exagérer, hein, on est 15. Tout le monde met son hamac le soir et on dort tous dans la pièce. Et il y a 4 générations, il y a les cousins, il y a une femme qui a été recueillie, il y a plein de monde. Et c'est la grande majorité des Mayas, ils vivent comme ça, ils vivent tous ensemble dans les mêmes espaces. Et ça, c'est magnifique, mais je ne veux pas l'idéaliser non plus, parce que ça a sa violence aussi, ça a son ballon de beauté et de défi, évidemment. Mais du coup, ça fait des humains, et c'est vraiment intéressant à voir. Ça fait des humains qui n'ont pas été conditionnés, qui n'ont pas évolué dans le même espace humain. Quand on a eu une chambre et qu'on était un peu seul dedans, ou même avec un seul frère ou une sœur, ou tu vois, pas qu'on avait vraiment des moments seuls dans sa, tu vois, dans sa bulle, c'est très différent pour évoluer. Le fait que les gens grandissent en famille dans des petites maisons où il n'y a pas d'espace personnel et donc ils ont une expérience et un conditionnement de la famille qui est vraiment très particulier, très différent d'une autre. Qui avons vécu avec des espaces personnels. Mais c'est seulement un aspect. Après, il y a plein de... Mais je trouvais que c'était ça, en termes de vécu humain, c'était très différent. Et c'est une question qui, c'est vrai, est dans l'air aujourd'hui. À savoir comment on vit les uns avec les autres, qu'est-ce qu'on fait, comment on crée. Il y a tellement d'espaces intimes maintenant. On a créé des boîtes partout, des espaces... voilà, bref. La famille, les familles. Et ouais, je me suis retrouvé dans des coins vraiment paumés où souvent les premières questions, bon évidemment c'était est-ce que vous êtes déjà allé aux États-Unis, est-ce que comment on fait, combien ça coûte, machin, des trucs comme ça, ou alors on parlait de vaches et d'herbes, tu vois, parce qu'on était dans des fermes. Mais très souvent la question ce qui venait c'est mais attends, mais ça c'est ta sœur, c'est ton frère, parce qu'on était en caravane, on était une trentaine, un cirque quoi, et donc pour eux, à leurs yeux, ils avaient jamais vu ça en fait. On était dans les villages, vous avez jamais vu d'étrangers de leur vie, des villages bien isolés, tu vois.
Donc là c'était avec les rainbows, hein, vous étiez en caravane et donc vous alliez rencontrer les populations locales.
C'est une caravane rainbow, mais tu sais, le rainbow, c'est décentralisé, c'est plutôt comme une philosophie, de philosophie rainbow, c'est-à-dire, oui, autogéré, une gestion de l'argent qui fait que c'est pas le but. Et ouais, et du coup, on débarque et on est ce groupe-là multiculturel, multicolore, machin, et les mamies nous demandent, ne comprennent pas, tu vois, mais vous avez quitté vos familles, ça va, genre, Des questions rigolotes, genre, mais elle, c'est ta sœur, c'est ta femme, et t'es sûr, genre, c'est pas ta sœur, et elle est où ta sœur, et ta mère, elle est où ta mère, tu vois. Plusieurs fois, me retrouver dans ce petit moment, à me dire, mais... Puis, ouais, avoir envie d'y aller, parce que ma mère me manque, ouais, évidemment, ça, ouais, ça c'est de se mettre dans le voyage aussi, c'est un défi.
Et donc, tu es là sur le festival, où tu as animé une cérémonie cacao. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça, de cette cérémonie, hein, ce rituel dont on entend de plus en plus parler. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Raconte-nous un petit peu l'origine et comment tu expliques l'engouement qu'on retrouve aujourd'hui en Europe sur les cérémonies cacao.
Pour continuer sur l'histoire de comment j'en suis arrivé là, c'est en arrivant dans les terres mayas, d'abord au Mexique et ensuite au Guatemala, qu'on a rencontré cette ancestralité. Moi, j'en avais un petit peu entendu parler, j'étais un peu cuisinier avant, mais je ne connaissais pas trop. Et là, voilà, on est sur les terres mayas et on commence à avoir du cacao, donc on en parle, on voit que c'est différent dans les villages. Et en fait, ce qui se passe à plus large échelle, c'est vraiment une transition assez rapide. Il y a un renouvellement dans la culture maya qui est assez magnifique et qui est assez historique. C'est vraiment, et je pèse mes mots, c'est la spiritualité maya qui a été gardée, qui est restée très discrète et même secrète pendant des années, parce que c'était dangereux au moment de différentes colonisations, et qui là, enfin peut ressortir. Parce que au Guatemala, la guerre civile, c'était il y a 30 ans, donc les tensions, l'extrême violence dans le pays, elle dure encore dans certaines régions et tout, donc c'est assez nouveau d'avoir des espaces où il y a une globalité, où il y a la stabilité suffisamment, et où il y a, plein de choses qui font que, en tout cas, les gardiens de sagesse sortent de l'ombre et racontent, et ils ont plein de choses, ils ont un monde de sagesse qui est fascinant, qui est magnifique, et au cœur duquel on trouve le cacao, de plein de manières.
Tu dis que c'est quelque chose qui, on en parlait peu, mais ça a toujours été là, cette sagesse, tu parles de sagesse aussi, on parle de plante maîtresse, on parle de médecine aussi, ce serait chouette qu'on arrive à comprendre en quoi est-ce que le cacao peut être une médecine, une plante maîtresse, maîtresse de quoi, comment ça fonctionne, peut-être la place des plantes dans le peuple maya.
Oui, alors ce sont des cacaos qui sont quand même assez différents de ce qu'on a pu connaître dans les chocolats. Déjà, le 80% du cacao exporté dans le monde vient du Ghana et de la Côte d'Ivoire, énormément d'Afrique, aussi beaucoup d'autres endroits, l'Amérique du Sud, notamment le Brésil, l'Indonésie. Donc c'est des variétés déjà assez rares en termes de génétique, sachant que la génétique du cacao est très complexe, donc il y a un potentiel de diversité qui est vraiment intéressant. Et pour plein d'autres raisons aussi, dans sa nature, le cacao c'est un pan mythique, je pense qu'on dit enfin, un pan mythique, c'est-à-dire qu'il se reproduit toute l'année, chaque arbre se reproduit toute l'année avec tous les... Il n'y a pas de mâle, femelle, tout le monde se reproduit avec tout le monde toute l'année. Et les cycles de fruits arrivent avec les pluies, il peut y avoir jusqu'à... Enfin, tu peux récolter en fait toute l'année, donc c'est une spécificité qui fait qu'en termes de génétique, c'est fascinant en fait. Et c'est un monde qui est très peu connu de la science. Quand tu vois dans le chocolat, des informations qui circulent encore, on va mettre trois types de génétique de cacao. Tu vois, le forastero, et non, deux en fait. Le forastero, le criollo, et le mélange des deux, le trinitario. Ça a été un mélange qui s'est fait à un moment sur une île, machin, et ça a donné lieu à tel type de génétique qui, oui, ont été reprises pour la production en masse, de masse, et donc qui sont connues de ce monde-là. Mais dans le monde scientifique, en fait, il y a... on sait qu'il y a une grande diversité génétique. Et donc il y a cette première spécificité, cette première beauté et richesse qui est génétique chez les Mayas. Ensuite, c'est des cacaos qui poussent sur des forêts qui sont vivantes, dans des jungles qui sont encore diverses et riches. Ça fait des cacaos assez extraordinaires.
Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu étais touché par la plante? Comment s'est passée ta rencontre peut-être avec le cacao?
Ma rencontre avec le cacao, j'ai pas tout de suite entendu parler du cacao cérémonial, alors que j'étais déjà dans le monde maya, mais plutôt dans des régions isolées et sur la côte Caraïbe, etc. Et voilà, on faisait du chocolat dans la caravane. C'est quelque chose de très pratique à faire. Ça se transporte très bien. Et puis on était sur les terres du cacao, donc quand on a compris qu'on pouvait le faire, on hallucinait. C'est une longue histoire, mais au final, voilà, je faisais un peu de cacao, un peu de chocolat. Et j'étais bien content et j'allais dans les forêts de cacao et je trouvais ça extraordinaire comme expérience, juste d'être là dans ces forêts, parce que une forêt de cacao contente, ça se voit déjà, ça se sent, c'est beaucoup plus dense, il y a vraiment beaucoup d'humidité, t'as trois niveaux d'arbres, t'es dans des terres qui sont gorgées, il y a énormément de, comment on appelle ça, qui est vraiment riche. Le cacao, il a des feuilles très épaisses, très larges, c'est un arbre de sous-bois, et c'est vraiment ce fond des vallées de jungle, c'est un endroit qui est assez touchant, qui peut être... on peut le sentir physiquement parce que c'est dense, quoi. Et je pense que moi, c'était de méditer dans cet endroit-là et dans une source. Et j'avais des moments extraordinaires. Je buvais mon cacao là, je méditais pendant des journées entières avec le soleil. Et je vivais une magie qui m'a changé la vie et qui a fait que j'ai décidé de... Je me suis dit, mais il faut que je... Enfin, ce cacao-là, c'est un trésor extraordinaire. Il y a tellement de choses à dire. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas idée de tout ce que j'ai pu être découvrir et être complètement... Tiens, mais c'est quoi ce délire ? Ok, il y a 4000 ans d'histoire du cacao chez les Mayas. Ok, il y a des cérémonies de toutes sortes. Je te disais, il y a encore des cérémonies qui existent encore. Par exemple, dans le Tabasco, ils protègent les maisons avec des mazorcas de cacao. Donc, c'est un travail avec les esprits. En Oaxaca, c'est plutôt avec des boissons. Et il y a différentes... C'est des danses, tu vois. Dans les villages, il y a des... telle ou telle célébration du village spécifique se fera avec tel cacao spécifique, avec des danses spécifiques quand même. Et enfin, voilà, il y a plein de traditions chez les, là où j'habite, chez les Cachiquel. Par exemple, les femmes boivent un grand verre de cacao pour accoucher. Quand, le jour où elles veulent accoucher, où elles sentent que c'est le moment, le cacao va déclencher l'accouchement. Et donc c'est intentionnel aussi. Plein de traditions comme ça, il y en a plein. Donc, presque dans les villages où il y a encore un peu de cacao, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de villages avec très peu de cacao. C'est ça aussi qui est fascinant.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Toi, tu découvres donc la culture maya à travers cette caravane hein, avec les Rainbow.
Alors, c'était la caravane des Nomads United, vous pouvez checker. Et nous, c'est une nouvelle génération de la caravane qu'on a appelée la Love South. Donc, notre but, c'était Love South. On va vers le sud et on vit l'amour. Et voilà, c'était l'amour avec les chevaux, l'amour en tribu, l'amour du voyage, l'amour de l'aventure, la découverte. Vivre le pouvoir de l'amour, en fait, montrer que c'est possible. Et ça a marché. On était 30. Presque une vingtaine de gens de moins de 24 ans dans l'histoire. Et on était tous à fond, très motivés. Chacun avait quelque chose à amener. Et au final, ça s'est fait. Voilà, on a voyagé pendant 8 mois. Et puis, on a fait des spectacles de cirque. On se faisait accueillir par les villages. En fait, les villages mayas, il faut demander la permission avant d'y aller. Surtout chez les zapatistes. Donc nous, comme on a démarré à côté des zapatistes, on a très vite appris à... Tu vois, on a faire bien les choses, quoi. Et du coup, on se faisait recevoir. On demandait la permission. Et c'est parce que de toute façon, c'était pas possible si tu le faisais pas.
Et vous arriviez à 30 dans le village.
On arrivait à 30. On s'installait en campement. On avait un grand tipi ouvert, un peu comme celui-là. Pas aussi grand et cool, mais tu vois, un truc de voyage. Et puis les chevaux. Et on était dans les fermes. Puis voilà, le lendemain, on allait voir un peu ce qui se passait avec le village. Tu avais la moitié du village qui venait nous scruter de loin. Donc on avait toujours la première journée comme ça, où tu as des grands yeux... Et puis là, le plus vite possible, on fait notre petit spectacle, on commence à montrer, à dire qu'on est des artistes, et puis on dit qu'il y a aussi il y a plusieurs mots, je ne me rappelle plus, en Tseltal, c'était il y a longtemps, tu vois, ça c'était il y a 7-8 ans. Mais le mot pour maître d'école, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des voyageurs qui sont... Parce que c'est vraiment des villages où c'est... Tu vois, la plupart du village, ils sont tout le temps là, donc il y a vraiment cet effet bulle. Et nous, on disait qu'on est comme des maîtres d'école, qui sont des voyageurs, qui sont des gens qui arrivent de l'extérieur et qui viennent. Et du coup, on faisait des journées, des fois, à l'école aussi. C'était bien fun. Voilà, mais surtout des spectacles de cirque. Et puis, on travaillait dans les fermes. Enfin, on aidait dans les fermes. Cette expérience-là, c'est un énorme apprentissage. C'est une énorme aventure transformatrice. Et elle continue. Regardez, Nomads United, il y a une caravane, une petite caravane qui continue. Et là, ils sont au Honduras.
Remets-nous un petit peu le contexte, hein, où est-ce que tu es, à quel moment la caravane s'arrête pour toi et tu décides de peut-être partir sur un autre projet.
Alors moi j'ai fait 3 ans avec la caravane, mais la première année c'était... En fait j'étais pas toute l'année. On était plusieurs à se passer le relais, de s'occuper des chevaux pendant les saisons des pluies et les saisons où on pouvait plus. Si tu veux, nous la première année au bout de 8 mois, ça a été un grand moment pour nous tous. C'était un peu déchirant pour certains. Enfin c'était un grand moment, mais tout ça pour dire tu vois, il y avait une partie de la troupe qui disait qu'on avait dans l'idée de continuer et on allait jusqu'en Ushuaïa, tu vois, à cheval. Et d'autres qui n'en pouvaient plus au bout de 8 mois, parce que c'est un mode de vie de fou. Tu vois, c'est des journées, les journées où tu veux te déplacer, c'est tu te lèves à 4 heures, paquer le camp, trouver les chevaux, paquer les chevaux, faire à manger éventuellement, feu, marcher, les aventures de se balader à cheval dans des régions isolées, voilà, de la Lacandone.
Passer les frontières.
Alors la frontière, ça a été quelque chose. On a fait nager les chevaux. On a fait nager 18 chevaux dans le fleuve Amour, qui s'appelle le fleuve Rio Amor, qui marque la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Okay. On les a passés sans papier, on a galéré l'année suivante pour faire les papiers. Et donc ça a été ça. Ça a été 3 ans de... on revient et il y a d'autres gens qui viennent et on refait une caravane. On fait 3-4 mois, on avance, tu vois. Et on arrive dans une ferme où c'est safe, les gens sont honnêtes, on peut laisser les chevaux. Il y a des gens qui restent, qui font du, tu vois, qui travaillent dans la ferme toute l'année, d'autres qui partent. Et moi, là, bah, c'est là où j'ai commencé à halluciner avec le cacao. Je suis allé à Titlan, qui est un endroit beaucoup plus connecté au monde globalisé, on va dire, et touristique. Et j'arrive sur cette culture de la cérémonie de cacao, qui est en train de réémerger dans la culture plutôt multiculturelle, globalisée, quoi. C'est des, et donc des cérémonies de tout genre, avec le cacao. Et puis, des abuelos et des abuelas, des anciens mayas, qui aussi commencent à dire « mais nous aussi, on fait des cérémonies de cacao ». Tu vois. Et ça, ça a 15-20 ans. Au Mexique aussi, il y avait, ça ce que j'ai appris par la suite, au Mexique, il y avait déjà des personnes qui faisaient des cérémonies de cacao depuis longtemps. Sauf que c'était pas connu. Et là, il y a 15-20 ans, ça a commencé à se faire connaître.
C'est ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'appropriation culturelle derrière et un effet de mode ?
C'est une super bonne question, c'est une vraie bonne question, celle de l'appropriation culturelle. C'est une question que je me pose au quotidien, franchement, dans la manière de faire l'appropriation culturelle. Je pense que oui, il y en a. Il y a des gens qui débarquent, qui prennent le truc et qui en font quelque chose de marketing monétisable. Et qui, si tu veux, il y a les prophéties dans la sagesse maya sont très importantes. La transmission orale a été très importante. Et il y a plein de choses qui se sont transmises. Il y a des réseaux de gens qui se sont parlé pendant des lunes et des lunes depuis des générations. Et tout ça, c'est en train de maintenant sortir au monde de public, tu vois. Et dans ces prophéties, il y en a plusieurs qui parlent de cette époque, qui parlent de ce moment où il y a une énorme transformation. Et la fin en 2012, la fin de la cuenta larga aussi, le changement d'ère dans le calendrier maya. Et qui c'est amené de plein de manières différentes, mais c'est une ouverture vers le monde. Et c'est partagé. Il y a un partage d'un renouveau, d'un retour de la sagesse ancestrale des peuples d'Amérique et des peuples, j'aime pas le mot indigène, tu vois, mais des peuples des Premières Nations. Il y a un retour du respect pour ces sagesses-là. Il y a un retour de ces sagesses-là dans l'inconscient collectif qui se fait. Et puis eux, ils parlent de ça, tu vois, ils parlent de ce qui se passe pour l'inconscient, pour les humains. Et à ce niveau-là, mon interprétation, la raison pour laquelle je continue, c'est que pour plein de personnes, c'est pas du tout une appropriation. Au contraire, c'est une découverte et c'est une inspiration et c'est un respect.
Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui va se passer pendant une cérémonie cacao ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Et qu'est-ce qu'on va vivre ?
Alors ça, c'est une très bonne question. De ce que j'en sais, après bon, je ne suis pas omniscient sur la question, les cérémonies de cacao, c'est avant tout une question d'intention, de connexion avec le cacao, avec sa richesse, avec sa présence, de reconnexion avec l'acte de porter attention, de porter respect, de porter honneur et de porter une certaine dignité, un certain sens spirituel à l'idée de partager un breuvage qui est chargé d'intention, de message, d'une identité et aussi d'une information nutritive, d'une charge matérielle qui est fascinante pour le cacao. C'est ça qui se passe avant tout. Et après, je crois que c'est une question d'authentique, c'est une question de partage et de connexion, de prière.
Et remettre un petit peu du sacré dans les choses qu'on a souvent banalisées. Aujourd'hui, on mange sans se poser la question de la provenance des ingrédients. Tu parlais aussi du pouvoir qu'on a, qui est le pouvoir d'achat, hein, de choisir où est-ce qu'on dépense son argent. Donc c'est peut-être aussi ça, c'est remettre un peu de conscience, remettre un peu de la conscience dans le présent et dans ce qu'on met dans son corps et dans sa bouche et de nos pensées.
Et dans l'intention qu'on a et la présence à soi qu'on a, l'attitude qu'on a quand on mange. Manger, c'est quelque chose de fou. On va faire le futur de ce corps. Je suis en train de construire ce corps pour l'avenir. Qu'est-ce que je mets dans ces molécules qui tournent et qui, ben je veux mettre une bonne charge. Et je pense que ça, c'est primordial. Et ça, c'est mon point de vue. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que quand je dis qu'il y a plein de perspectives aussi sur le sujet qui sont cohérentes, c'est que dans la culture maya, ça vient aussi avec une autre poésie. On va parler de l'importance de dire, de prononcer les mots de gratitude, parce que ça change l'instant présent. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, du point de vue maya, le renouveau du cacao, il a une identité que je peine encore à comprendre et qui est fascinante et très profonde. Tu parles de propriétés médicinales, on n'a même pas abordé le sujet. Mais oui, aussi, le renouveau dans la culture maya de la compréhension du cacao comme une médecine, c'est beau à voir aussi. C'est en train de... Avec la spiritualité maya qui ressort, qui revient, qui est en sécurité maintenant, qui peut parler sur l'espace public, il y a aussi le sens de la médecine naturelle qui était extrêmement présent dans les diverses traditions mayas. Donc oui, on vote avec notre argent, à fond. À fond, aujourd'hui, on a le cadeau de l'économie sociale, c'est un nouveau concept, enfin, c'est une révolution socio-économique, j'espère, qui est en cours. Et voilà, donc nous, on veut en faire partie, et le cacao cérémonial en fait de plus en plus partie. Même si, bon, il y a plein de... C'est tout nouveau, c'est une grande mode, ça part dans tous les sens, dans tous les pays, et donc il y a plein de choses qui se passent. C'est très intéressant de voir ça, de regarder. Parce que, avant tout, pour moi, ce qui me touche et qui me plaît et qui fera que je vais continuer et que je suis à fond entier là-dedans, c'est que c'est avant tout des humains qui se regardent dans le blanc des yeux, qui s'assoient autour du feu, qui se ressentent, qui se connectent. Et ça, c'est...
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.